Vous écoutez
RMC.
RMC.
Cette mentalité failure before success. Ok, wow. Moi j'en suis revenu.
Vous en avez marre de voir tous les agents qui sont sur le même modèle, avec les cheveux trop longs et des mauvaises chaussures, qui viennent avec une voiture de location devant votre baraque.
C'est voilà. Magnifique comme déclin, c'est clair comme Claire Chazal. Et mon avis.
20h-22h, Génération After.
Karine Galli.
On est ensemble pour une deuxième heure de Génération After avec Jennifer Mandelevitch, avec Elton Mokolo, avec Walid Acherchour, avec vous sur le WhatsApp RMC au 32-16 dans quelques instants. Le programme, ces grands joueurs qui ne nous procurent aucune émotion, parce qu'on a vu des pleurs de partout ce week-end. Évidemment, c'est la fin de saison, des joueurs qui prennent leur retraite, des joueurs qui quittent des clubs après avoir marqué de leur empreinte ces clubs. On en parle avec vous. L'avis d'Elton qui concerne Rouli, qui a parlé sur ses réseaux sociaux. Pas beaucoup de remise en question du côté du gardien argentin sur son poste Instagram, et puis toutes les actus du jour avec Pierre Sage qui dit qu'il reste à Lens, ou encore Maxence Lacroix qui devrait quitter Crystal Palace. On va partir à Roland-Garros, à quelques kilomètres du studio RMC, où on retrouve Eric Salio. Eric, petit point pour nos Français, c'est parti pour Djokovic face à Giovanni. Ben, c'est serré, hein, c'est ce que j'avais dit.
Mais tu as vu juste, bien sûr, comme souvent. 5 jeux à 4 pour Novak Djokovic. Giovanni sert extrêmement bien. Ça sort de la raquette à 220 km/h. Donc Novak Djokovic n'existe pas sur les mises en jeu du Français. Et j'ai une nouvelle qui va peut-être remettre le couteau dans la plaie. C'est sous les yeux d'Arthur Fils, dans la tribune des joueurs. Tout en haut, là, je le vois d'ici. Donc, c'est un ami très proche de Giovanni Empeci. Et il a fait le déplacement, donc, porte d'Auteuil pour soutenir son pote. Et moi, ça me fait mal. Bon. Herbert Sonego, ça fait 5 partout au premier. Et 1-7-0 pour Valentin Royer sur le court 14. Et la grosse surprise, la première grosse surprise de ces internationaux de France, c'est l'élimination de Taylor Fritz, l'américain, tête de série numéro 7, sorti par l'américain Bazavaredi. Tu le connaissais pas, celui-là, hein?
C'est pas un ami, non. On se connaît pas bien. Eric, allez, courage. Je sais que tu as un petit cœur qui bat, alors forcément, Tu es très triste depuis qu'Arthur Fils a déclaré forfait, mais ça va aller. Il va y avoir une bonne surprise, tu vois. L'an dernier, il y avait Boisson. Ben là, on attend la surprise 2026.
On l'espère, on touche du bois.
On croise les doigts, bien évidemment. On te retrouve dans quelques minutes. Messieurs, dames, on va parler donc des grands joueurs qui ne nous procurent aucune émotion. Parce que hier soir, donc pour ceux qui étaient avec nous, pour ceux qui auraient raté l'émission, c'était le moment des adieux côté Real Madrid. Il y a eu donc Alaba et il y a eu juste après Carvajal. Carvajal, joueur formé évidemment au Real Madrid. Il a fait toute sa carrière, si ce n'est une saison, loin du Real. C'est lui qui a mis la première pierre du centre de formation. C'est un joueur qui a marqué en finale de Ligue des Champions. Et lorsqu'il est sorti, il y a eu une haie d'honneur, il y a eu des pleurs, il y a eu évidemment une ovation absolue du Bernabeu. Et dans le même temps, Kevin, qui est en studio avec nous, nous a dit « Mais moi, Carvajal, c'est l'encéphalogramme plat, c'est rien. Il me procure absolument aucune émotion. » Et on s'est dit « Bah tiens, on va en profiter parce qu'on a vu énormément d'adieux. Aujourd'hui, on a vu évidemment Mo Salah qui a quitté le Liverpool. On a vu Bernardo Silva qui a quitté Manchester City, Pep Guardiola. Enfin voilà, il y a des pleurs à peu près sur tous les matchs depuis deux jours. Et donc, on s'est posé cette question et ce débat. Quels sont les grands joueurs qui vous procurent absolument aucune émotion? Et je me tourne vers toi en premier, Jennifer.
Alors moi, c'est Lewandowski.
Non.
Si.
Non.
Désolée. Bah, si. Je sais que ça va ni te plaire ni plaire à Elton, mais j'arrive pas. En fait, bien
quelle
entendu,
intimité.
On est obligé de reconnaître le talent, la légende, le palmarès, tout ce qu'on veut. Mais je trouve que on n'a pas la petite histoire à côté qui fait la légende. On a besoin d'un peu de storytelling pour s'attacher à des joueurs. C'est quelqu'un qui montre rarement ses émotions. Voilà. Après, c'est quelque chose de très personnel. Ça pleure à Bernabéu pour Carvajal. Kevin Diaz s'en fout. Ben, moi, c'est Lewandowski. Je
entre
reconnais...
Lewandowski et Carvajal, quand même, rassure-moi, il y en a un qui t'a fait plus que l'autre. Quand même.
Oui, mais on est en train de parler. On est en train de parler des légendes.
Ah oui, bien sûr.
Donc, en tant que légende qui, pour moi, ne m'a pas spécialement fait vibrer, moi, c'est plutôt Robert Lewandowski.
Alors, ça peut être un grand joueur et pas forcément légende, mais là, en l'occurrence, ce sont deux légendes. Lewandowski, évidemment.
Parce qu'il faut un préambule.
Il a marqué l'histoire du foot.
Déjà, il faut un préambule, notamment pour le terme de légende qui peut être parfois galvaudé.
Oui.
Moi, je fais légende, c'est un club select. C'est un club où il y a un physio. Tu rentres, tu rentres pas, tu rentres, tu rentres
non,
pas.
Mais ça peut être très grand joueur.
Ouais, mais c'est qui le physio aussi? C'est nous.
Pour un coup, ça va être moi.
D'accord.
Alors, voilà, c'est une tâche qui est pas facile, mais je vais l'assumer pour cette émission.
Alors Lewandowski, légende.
Lewandowski, ça rentre.
D'accord.
Ça rentre dans le club.
Et Carvajal, ça rentre pas. Carvajal, ça reste une légende de, dans son côté.
Carvajal, ça rentre pas.
Oui, enfin. Ouais. Au Real Madrid.
Oui, voilà, au Real Madrid, mais ça, c'est la dimension club parce que pour moi, il y a un
buteur en finale de Ligue des Champions.
Ah ouais, pour moi, il y a.
Il est quoi? Il est à 5 Ligue des Champions?
6 Ligue des Champions.
Buteur en finale.
Buteur en finale. Avec l'Espagne, il a quoi? Il en a une ou deux.
Et il est champion d'Europe.
Champion d'Europe, là, récemment.
Champion d'Europe en 2024. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est très important aussi. Ça doit s'étendre à ta sélection. Je peux comprendre que les gens de club.
Non, là, on parle de club, là, Elton. Ne confonds pas tout.
Ah, ok, mais les gens de club, mais moi, ça ne m'atteint pas. Je vais te donner, par exemple, le mien. C'est Bernardo Silva.
Oh.
Non mais cet après-midi.
On l'a vu cet après-midi.
Non mais Bernardo Silva, je vais dire un truc. Grande carrière, grand respect, mais pour moi, Bernardo Silva, c'est un joueur pour les entraîneurs. C'est pas un joueur pour le public. Je sais pas si vous voyez la différence.
Ah, parce que donc tu l'as pas vu donner des magnifiques passes décisives à des coéquipiers à Monaco, à Manchester City.
C'est un grand joueur, c'est un grand joueur. Et pour moi, Bernardo Silva, c'est l'employé du mois. À savoir, le travail est bien fait. Je te donne le titre d'employé du mois. Mais en termes de légende qui va m'impacter, c'est là où j'ai une limite.
Oui, oui. Après, moi, j'aime beaucoup Bernardo Silva par rapport à ce qu'il a fait à Monaco, même par rapport à ce qu'il a fait à City. Après, c'est vrai qu'il est devenu un joueur un petit peu, on va dire, ouais, c'est vrai, plus cérébral et trop étiqueté Guardiola dans son profil. Mais ce qu'il fait à Monaco, les débuts qu'il fait à Manchester City, c'est vrai que c'est pas le joueur le plus spectaculaire balle au pied. Mais moi, j'aimais beaucoup son grain footballistique, j'aimais beaucoup sa touche, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Après, je comprends en fait ce que tu veux dire, c'est que parfois, là, depuis qu'il a été recentré dans le cœur du jeu, il te fait certains ronds-points, il va prendre du temps, il va faire la passe un peu latérale, il va être dans de la. En fait, il est à l'image de la position défensive qu'a voulu mettre en place Guardiola à un moment donné, et c'est vrai que tu peux ne pas accrocher.
C'est un joueur qui a évolué.
Et globalement, le problème de Bernardo Silva, c'est surtout comme ce que je disais sur Bruno Fernandes tout à l'heure, bon, c'est que avec le Portugal, ouais, j'ai pas d'image forte en fait avec le Portugal.
Oui, mais là, si on reste sur on parle d'affect et de sensations qu'on procure.
Moi, c'est un style que j'aime bien, Bernardo Silva, mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient réfractaires.
Non, mais t'as pas d'image, par exemple, de Bernardo Silva avec Monaco quand ils sont champions, demi-finalistes de la Ligue des Champions.
Et j'ai même des
images de City.
J'ai même des images de Bernardo dans le plus grand match de City en Ligue des Champions, le 4-0, le doublé.
Et donc toi, tu regardes ça en disant oui.
Non, même
c'est
la,
tout.
Et même la saison d'avant, il te met un but extraordinaire sur le 4-3 contre le Real Madrid.
Il est dur de rester insensible quand même à Bernardo.
Mais non, mais aujourd'hui, son évolution de joueur fait que pour moi, en termes de légende, ben ça va, j'ai pas été donc.
Oui, il m'a fait quelque chose.
Oublie le mot légende, mais le côté grand joueur. Il est arrivé à City en 2017. Au début, il galère parce que c'est très compliqué.
Bien
sûr. Comprendre le logiciel Guardiola, il a réussi. Rien que ça, déjà, c'est une évolution. C'est quelque chose qui est compliqué et il a réussi à le faire. Et il a été très bon à Monaco. Le mec, il vient de la deuxième division du Benfica.
Mais oui,
quand Luis Campos le ramène à Monaco, on se dit c'est qui ce petit?
Non mais toi, on a compris dès qu'il y a un joueur de Monaco qui arrive de Monaco, c'est comme une dingue. Toi, si, on a bien compris. C'est quoi? C'est le papa de Marlène Sarkliouche. C'était ton Sarkliouche à l'époque, Bernardo Silva. C'est ton chouchou lui aussi?
C'était mon chouchou.
Ah, c'était ton chouchou, d'accord. C'était ok, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. On a bien compris.
À l'époque, on regardait les matchs de Monaco avec Benjamin Ramagé qui travaillait à RMC, qui était supporter de Monaco. On faisait des paris ensemble et on se régalait.
Excusez-moi,
la saison
est toujours pas bien.
Dans le top 5 des joueurs de Manchester City, je te le mets, Bernardo Silva.
Bon, bah donc, alors, qu'est-ce que tu lui reproches?
Non, mais lui, il a pas d'atome crochue. Il a pas d'atome crochue avec lui.
J'ai le droit d'être un peu pris.
C'est les couleurs. Moi, par exemple, j'en ai un autre qui peut. Qui va peut-être faire sursauter les auditeurs, mais moi, Mo Salah ne m'a rien fait, footballistiquement. C'est un monstre, hein. C'est une légende, il est exceptionnel, c'est un joueur incroyable. Mais en fait, je le trouvais très robotique, très athlétique. Ouais. Footballistiquement, son grain footballistique, c'était brutal, c'était létal. Mais Mohamed Salah,
c'est exactement les mêmes arguments que pour Lewandowski.
Oui, voilà, mais
donc, Mohamed Salah, qui est à la Roma, bon, ok, qui devient une légende absolue.
Mais c'est une légende, c'est un monstre.
Il a un trio de dingue. Ouais. Ben, Mo Salah.
Moi, footballistiquement, j'ai trouvé ça très efficace, j'ai trouvé ça très, encore une fois, très létal, très brutal. C'était effrayant. Le prime de Mo Salah est effrayant. Mais c'est, en fait, on parle pas là de considération footballistique, parce que le mec, c'est un monstre. Mais son football ne me procurait très peu d'émotions. Je me rappelle qu'il y avait eu ce débat avec Habib Bey et Samir Nasri. Je crois que c'était.
Il y a bien longtemps.
C'était il y a longtemps. C'était sur une émission à Canal Plus. On comparait Hazard et Salah. Si demain je dois payer un ticket pour aller voir un des deux joueurs en première ligue, je vais pour Eden Hazard. Maintenant, si tu me dis aujourd'hui, il faut construire une équipe équipe autour pour me faire gagner des titres ou être régulier, ou le mec qui a la masse graisseuse la moins importante, une régularité, une éthique de travail, un professionnalisme. Bah, je vais sur Salah tous les jours.
Oui, mais là on parle d'émotions.
Voilà, mais maintenant
ça sur les émotions et Mo Salah, non toi.
Ah non, j'ai
son pas foot. Eu d'émotions. Alors, sur Mo Salah.
Bien évidemment que j'ai des buts qui m'ont fait sauter de ma chaise. J'ai crié devant certains buts de Mohamed Salah par rapport les matchs qu'il faisait contre City, c'était exceptionnel à Anfield.
Mais
je dis juste que le footballeur, parce que vous voulez en trouver un, parce que vu que c'est un débat compliqué, c'est un débat qui nous met en danger apparemment. C'est ce que tu veux faire, Karine, depuis tout à l'heure. Bah allons-y. Vas-y. Tu veux du clic, tu veux en avoir, tu veux qu'on passe un sale week-end, tu veux qu'on passe un dimanche, t'es très très gentil.
Alors sympa.
On va le faire si tu veux mon avis, moi.
Le football ne devrait mettre personne en danger dans un mode normal. Bah, et non, vu que je n'ai pas les notifications WhatsApp les notifications Twitter, je ne vois rien.
Je vais avoir les pros Salah partout, etc. Mais
pour After Foot RMC,
voilà, mais la réalité, c'est que Mo Salah, footballistiquement, voilà, j'ai jamais été son grain, son rapport au ballon. Je trouvais ça parfois brut. Alors après, attention, il y a eu d'autres versions de Mohamed Salah, beaucoup plus connectées au reste de l'équipe. Et son histoire est admirable. Son histoire est exceptionnel, c'est dingue qu'un Africain arrive en première ligue et en plus on sait très bien que
voilà
s'exporter de cette. Non mais c'est pas là, on n'est pas dans un jour une histoire, là on n'est pas dans un jour une histoire.
Mais non, si, on est dans un jour une histoire. Moi je trouve que
c'est différent. Si tu me parles de storytelling, si Stéphane Bern me raconte l'histoire de Mohamed Salah, là oui, j'ai aucun problème. Par contre, je te dis juste que footballistiquement, sur le terrain, il y avait pas mal de saisons, je me disais, ouais, Mohamed Salah, c'est très très fort, mais ouais, j'arrive pas.
Voilà, ça vaut pour beaucoup de footballeurs.
Mais voilà, on
va accueillir Ali, qui est avec nous, au 32-16 sur RMC. Bonsoir Ali.
Bonsoir tout le monde, j'aime ces débats enflammés.
Mais moi aussi j'adore, mais moi je saigne depuis tout à l'heure, parce que c'est terrible. Ils auraient pu me sortir des joueurs dont je me fous absolument, et là ils m'ont sorti trois joueurs que j'aime beaucoup. Alors attention Ali, c'est lequel le tien?
Non, mais autant j'ai différé avec Lewandowski ou Walid avec Salah, d'accord, mais moi...
Ali,
moi je vais faire, j'ai même un 11 des joueurs pour moi qui me procurent rien.
Vas-y.
Alors en gardien j'ai Oblak, à droite j'ai Llorente, j'ai Diaz, Thiago Silva,
Ruben Dias,
Jordan Henderson, Bruno Fernandes, Joshua Kimmich, Bellingham, Wirtz et Lautaro Martinez.
Non mais Ali,
on va en choisir que deux. Non mais Ali, quand même.
Très sincèrement, je suis le physio dans le club select, tu prends pas de risque. C'est des joueurs qui sont pas engageants.
Donc ben Bellingham, il est engageant
Bellingham, il a 23 ans, il est pas engageant.
Par exemple, il y a un joueur qui me faisait rien, mais après on remonte un petit peu hein, mais énorme légende, exceptionnel, joueur exceptionnel, mais qui m'a jamais rien fait, c'est Frank Lampard.
Mais
Franck Lampard, j'étais passif en fait. Et il mettait les buts, c'était exceptionnel, joueur exceptionnel, bravo et tout.
Ah bah ouais, un milieu de terrain qui met des buts, c'est déjà exceptionnel, ou c'est pas la normalité.
Mais c'est pas ça. Est-ce que tu avais une affection dans ton cœur?
J'adore Chelsea, donc oui, j'avais une affection dans mon cœur.
Ah oui,
revenons à Ali, parce qu'on va reparler.
Ali, son 11 est recalé.
Non, mais attends, Bellingham, par exemple, tu peux pas recaler tout le 11.
Il doit y avoir un prérequis, ça doit être des joueurs très importants. Des gars qui ont choqué la planète football.
Si je dois en choisir un, je prendrais Bruno Fernandes.
Mais non, mais Bruno Fernandes,
c'est tout gentil. Tiens, c'est pas gentil, Bernardo Silva.
Si, bah, c'est vrai, c'est exceptionnel. Je vais balancer. Elle m'a demandé ça à 18h45. Ouais. Moi, déjà, je suis pas.
Bah, vas-y, envoie du lourd.
Ah non, c'est Ali.
Exactement.
Messieurs, alors Ali, toi, Bruno Fernandes, effectivement, c'est un joueur qui était cité précédemment par Walid. C'est vrai que tu trouves que quoi, c'est un joueur qui est neutre? Qu'est-ce que tu lui reproches?
Bah moi en fait ce que je lui reproche, après attention, ça va pas que pour lui aussi, c'est parce qu'il est tellement dans une équipe qui était médiocre qu'on a l'impression que lui sortait du lot parce que les autres étaient trop médiocres. Alors que
justement, donc il l'a sauvé à maintes reprises, l'équipe de United.
Non, après moi, Bruno Fernandez, c'est pas footballistiquement, lui, c'est le contraire. C'est-à-dire que footballistiquement, ça reste un joueur hors pair, qui a vraiment, en plus, une qualité de passe, qui me procure des choses. C'est que parfois, mais c'est pas cette année, il fait une année exceptionnelle, mais sur les dernières années, quand c'était un peu compliqué, des fois, il avait une attitude sur le terrain, je trouvais qu'il se fourvoyait, qu'il se prenait pour un autre, ça me dérangeait. Mais globalement, footballistiquement, moi, j'aime beaucoup le joueur.
Walid, si je peux me permettre, je vais répondre pour Bruno Fernandez. Pas pour Bruno Fernandez, pour Bernardo Silva. En fait, Bernardo Silva, s'il avait été un peu plus star, un peu plus actif, on l'aurait un peu plus vu faire les people, je te garantis que jamais vous parlez de lui comme ça.
Bon, moi, j'ai parlé de lui comme ça. Moi, c'est Elton Mokolo.
Non. Je dirais la même chose, c'est plus par rapport à son évolution footballistique, parce qu'on l'a vu à Monaco et même sur le début de Manchester City. Mais c'est un joueur, moi, forcément, qui m'amène moins de choses.
Non, mais par exemple, si on revient au débat de départ avec Kevin qui parle de Carvajal, mais quel enjeu sur Carvajal. Bah,
exactement,
en fait.
Ouais.
Pourquoi il nous a.
Messieurs, attendez, je vous coupe. Eric Salio, retour à.
Break and Petit.
Eh oui, Break and Petit.
Je sens le tennis.
T'avais dit que tu aurais pas. Pardon. 6 jeux à 5 pour Thieu. Giovanni Petit-Péricard qui vient de remporter un jeu interminable à sa 4e balle de break. Il a lâché, comme on dit, une sacoche de coups droits qui a laissé sur place Novak Djokovic. Donc 6-5, Giovanni va servir dans une minute pour tenter de prendre cette première manche.
Magnifique. Walid l'a vu.
Elle est là, ta valeur ajoutée. Voilà,
bien sûr. Que le petit Giovanni allait faire un gros coup.
On suit
ça, évidemment, tout au long de la soirée avec toi, Eric. On revient à notre débat. Non, mais Carvajal aussi, c'est son poste, en fait. C'est un délit de sale gueule.
Oui, exactement. Oui. On l'assume.
C'est très facile de la part de Kevin Diaz. C'est très, très facile. Et en plus, derrière, nous, on récolte les pots cassés sur un dimanche un peu neutre où on doit se faire un débat comme ça et après, on va se faire fracasser à cause de Karine Galli. C'est ça qui me dérange. Mais ça, c'est ça qui me dérange en fait avec Kevin Diaz.
Mais Kevin Diaz, moi, j'adore les joueurs que personne n'aime. Par exemple, moi.
Non, non, mais c'est le contraire qu'on veut. En fait, le concept, c'est le contraire.
Moi, j'adorais Diego Costa. Vous allez me dire quel buffle. Moi, j'adorais.
Ah oui, d'accord. Toi, t'es en fait tous ceux qu'on déteste, toi, tu les aimes.
Oui.
On revient sur le concept.
On revient sur le concept de base.
Moi, par exemple, typiquement, tu vois, moi, j'en veux énormément à Eden Hazard, tu vois.
Pourquoi?
Le principe du joueur qui est tellement fort, qui est tellement facile et qui ne donne pas le meilleur de lui-même.
Il te procurait rien, Eden Hazard.
Frustré quand même.
C'est une émotion.
Non, non, moi, je ne supporte pas cette émotion-là.
Ah, attends, tu rejettes certaines émotions, toi, en fait.
Je préfère les besogneux.
Ah, ouais.
Bien sûr.
Ah, donc, tu n'aimais pas ceux qui étaient pétris de talent et qui te faisaient.
Le problème, c'est que quand j'étais petite, j'adorais Dugarry, qui m'a énormément frustrée.
Ouais.
Donc, en grandissant, moi, je préfère le joueur qui est au.
T'as fait payer ça à tous les autres à part Dugarry, en fait.
Exactement.
Ah, d'accord, ok. Mais t'es une méchante, toi, en fait.
Non, c'est qu'en fait, le problème, c'est quand tu as un don absolu et que tu dis, ok, j'ai un don, si je décide de faire gagner le match, je le fais gagner. Si je décide de faire un grand match avec Chelsea, je le fais, ou avec la Belgique, je le fais. Mais c'est pas mon obsession première. Et donc, finalement, j'ai une carrière qui aurait pu être beaucoup plus belle.
Ça se tient.
Ben moi, je
mais ça reste
beaucoup.
Quand même des joueurs qui, entre guillemets, t'as envie d'aller au stade pour eux.
Frustrant. Ah oui.
Ça reste une émotion.
Oui, mais moi, je déteste cette émotion.
Il y en a d'autres. Et donc, Eden Hazard, il t'a rien fait.
Non, c'est pas qu'il m'a rien fait, c'est qu'il m'a plus frustré.
C'est pas la question.
Des joueurs qui sont pas pétris de talent et qui font une immense carrière, je trouve que c'est beaucoup plus méritant. Tu vois, le chien qui se bat tous les matchs.
Oui.
Moi, je trouve ça.
Oui, mais est-ce que ce chien, tous les matchs, il t'a fait quelque chose?
J'adorais.
Donc, à chaque fois, je disais, purée, ce chien-là, il se bat.
Mais non, mais tu mets James Milner ou des mecs comme ça.
Il y a la finale de Ligue des Champions quand il s'est fait faire sa picouse là, il rentre et finalement il est pété après quelques minutes.
Ouais.
Ah ben j'étais d'une tristesse.
Ah ouais, d'accord, ok.
Terrible.
Ah oui, ok.
Alors qu'à la base j'aime pas du tout l'Atlético.
Et par contre sinon le concept de l'émission après 20 minutes de débat, est-ce que tu pourras avoir une réponse?
Et ben je t'ai donné des
réponses. Non, non, en fait t'as changé de but.
Ça va pas.
T'as changé de but.
Par exemple, c'est un joueur qui pour moi, je lui en veux.
D'accord, oui, mais le mec t'as rien fait genre son football.
Regarde,
Elle est vite.
Mon cher Eric, balle de 7.
Balle de 7, 6-5, 45 pour Giovanni Petit-Péricard. Il est tranquille, le Lyonnais. Moi, je l'aime bien, là. Il vient de lâcher un ace à plus de 223. Et encore un ace. Et voilà, un 7-0 pour Giovanni Petit-Péricard. Novak Djokovic va devoir serrer les boulons.
Et il y a match.
Je pense qu'il ne s'attendait pas à une telle prestation du jeune français. Donc à 7-0, 7-5 pour Giovanni.
Premier tour pas simple pour Djoko, avec peu de références comme bien ça. Il va avoir un fusil à pompe devant.
23h ce match.
En plus, on a eu une journée avec les Français pas dingue.
Donc là, on va
le pousser. Attention,
je te dis, Waïd. La une de l'équipe, elle est là.
Ah oui,
elle est là.
Tu vois, c'est ça le problème d'Elton Mokolo.
Il y a 40 minutes,
il me prenait pour un fou.
C'est faux, il y a un podcast.
Ah ouais, d'accord.
Merci beaucoup, Eric. Donc, premier set pour le français. On a vu en plus qu'il y avait un monsieur avec le maillot Zidane dans le dos.
Oui, bah oui, bien sûr. Ouais.
Très bien.
Ouais, merci pour cette information, Karine.
Ben non, mais je le dis.
Oui, d'accord, ok.
Il a procuré des émotions, Zidane.
Oui, j'adore. Mais je crois qu'il était faux, le maillot, par contre.
D'accord, ok. Ah, tu veux le balancer? Tu veux aller le. Il y a un truc, tu veux qu'on fasse quelque chose?
Il n'avait pas l'air clair, le maillot.
D'accord, tu reconnais un faux maillot. Ouais.
Ben, je sais pas, la typo, elle était pas bonne, non?
D'accord, ok.
J'ai l'impression.
On va demander à la sécu de sortir.
Ali, merci d'avoir été avec nous et on va accueillir Aubin qui est avec nous également.
Avant d'accueillir Aubin, tu vas lui donner quand même des joueurs à voir qui n'ont vraiment rien fait.
Des grosses légendes.
Ouais,
je vais. Non, mais alors après, par exemple, tu vois, il y en a plein.
Tu veux te brouiller avec personne.
Elle est aquaphobe.
Par exemple, Coupe du Monde 98.
Oui.
C'est ta génération, ça.
Moi, je les aime tous.
D'accord, non, mais même globalement, cette Coupe du Monde-là, il y avait des grandes légendes, des grands joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs aimés et tout, etc. Toi, ils t'ont rien fait. Des légendes.
Michael Owen.
Attends, en Angleterre, en Argentine, au Brésil.
Michael Owen, je m'en fous complet.
Ah, mais toi, c'est quoi? C'est en fait, tu
veux. Non, tu dois t'attaquer à tout thème.
Kaka, par exemple, ça n'a jamais été ma passion.
Ah, ok, je suis d'accord avec toi.
Kaka, jamais ma passion.
Ça, c'est bien.
D'accord, très bien. C'est bon. On peut aller demander à l'auditeur ce qu'il en pense.
On va demander à Aubin, qui est avec nous, donc 32-16 sur RMC. Bonsoir, Aubin.
Hello, bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Aubin, ce débat est enflammé. Ces grandes stars, ces légendes qui nous procurent aucune émotion. Quelle est la tienne?
Bon, alors déjà pour commencer, je ne sais pas comment vous avez pu citer le nom de Mohamed Salah dans ce débat.
Walid.
Je suis outré, Aubin. C'est les couleurs.
Je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est une dinguerie.
C'est moi.
Quelle dinguerie,
Mohamed Salah, footballistiquement,
je trouve.
Arrête avec ton footballistiquement. Mais je le trouvais exceptionnel, je le trouvais très efficace, mais il ne m'a jamais rien fait, footballistiquement.
Ok.
J'en ai un autre.
Vas-y.
Qui ne m'a jamais rien fait.
J'en ai deux à proposer, moi.
J'en ai un autre. Gareth Bale.
Ah
Gareth Bale, je suis d'accord. On a le droit quand même ou pas?
Aucune émotion, Gareth Bale, c'est vrai.
Ça c'est bien.
Ouais, juste mets un peu de respect sur le nom de Gareth Bale, parce que je te rappelle qu'il a fait 40 mètres en sortant du terrain. Et pas sur n'importe quel défenseur. De mémoire, c'était Maicon, je crois.
Mais Carlo Ancelotti aussi, il fait 40 mètres sur le tour du terrain. Il fait Sampaoli ou Nayemri.
Diego Simeone, il a remonté les Champs-Élysées, on a adoré.
Non, mais Gareth Bale, c'est un excellent.
Je vais vous dire, moi mes deux noms que je propose.
Attends, avant que tu poursuives, Aubin. Encore une fois, on ne dit pas que ces joueurs-là n'étaient pas extraordinaires.
Mais pas d'émotion, voilà.
Mais on donne juste notre sentiment.
Ok, non mais je comprends.
Donc Gareth Bale fait partie de la liste, buteur en Ligue des Champions, etc. Oui. En finale,
on a déjà fait ce débat-là au WFC avec Elton.
Excuse-moi Karine, excuse-moi, retourner en finale Ligue des Champions,
c'est très bien.
S'il n'y a pas d'émotion, c'est quand même compliqué.
Eh ben, je te le dis.
Mais attention. Ah oui, t'as deux trois images importantes, le même contre l'Inter Milan, etc. Mais je trouve que sur sa carrière, même l'histoire du golf à la fin, j'en ai rien à cirer du foot. Il m'a jamais grandement intéressé, on va dire.
De toute façon, le foot l'intéressait pas, c'était le golf. Allez, Aubin, tes joueurs.
Ok, alors je vais aller. Moi, je vous propose deux joueurs. C'est deux milieux de terrain. Alors un iconique de Valence, Gaizka Mendieta. Moi, je suis d'une génération où je l'ai vu jouer en Ligue des Champions.
Et
le deuxième, un autre milieu de terrain. Alors, il faut un peu s'accrocher. Goretzka. Moi, Goretzka, c'est pareil.
Je suis d'accord.
Enfin, c'est pas très dangereux de dire Goretzka. Qui te dit je me lève la nuit en pensant à Goretzka?
Il y a rien de dangereux en tout cas, j'ai compris. Hein. J'ai compris la DA, j'ai compris la direction artistique, c'est je me mouille avec personne. Je peux te dire sur SofaScore, passe latéral, il est à 100%. Tu prends aucun risque.
Tu t'es déjà embrouillé avec des gens sur Goretzka? Je pense pas.
Sans passe réussite. En fait, l'idée du débat, c'est quand même d'essayer de créer quelque chose, de créer un truc. T'es pas comme les autres, quoi. T'es pas comme les autres. Là, j'ai l'impression que t'es comme tout le monde, quand même. Peut-être Albelda aussi, t'as rien fait à Valence, non? Hein, ou, je sais pas.
Marco Senna.
Ouais, Marco Senna, peut-être. Non, mais peut-être que tu vas nous dire qui d'autre. Timotchouk. Timotchouk, t'as rien fait aussi.
Aubin, t'as pas des joueurs un peu.
Tu te moques du monde. Aubin, tu te moques du monde.
Ouais, parce que là, franchement,
on a dit légende.
Mendieta.
Non, Ambrosini, Ambrosini.
En fait,
tu me dis
moi.
Il a deux doigts de me dire. Il a deux doigts de me dire Ravi Martinez.
Non, mais milieu de terrain, il y en a plein qui sont des joueurs lambda en termes d'émotion. Et puis alors là, tu nous as pris vraiment des mecs. Personne pense à eux.
Il est arrivé d'été. Il nous a fait la leçon et tout.
Aubin,
excuse-moi, mais lambda, non.
Non, mais Goretzka, non, je veux dire, Goretzka, personne se bat sur Goretzka. Je veux
dire, entre 89e minute hier, c'était pas.
Ah, mais c'est un très bon joueur, Goretzka. Mais ça va, on va se calmer. Si t'es pas fan de Goretzka, y a pas de problème, en fait. Hein. On passe à autre chose.
Allô, on m'entend?
Oui, on t'entend. Mendieta, Goretzka, il n'y a pas de quoi s'embrouiller, tu vois.
Karine, excuse-moi, mais Mendieta, c'était quand même à son époque top 10 Ballon d'Or. Hein.
Ah non, mais c'est très grand joueur.
Mais attendez, mais par contre, on te prend des très grands joueurs. On te prend pas un milieu de terrain de Ligue 2, bien sûr.
Bah, je prends Pedri, alors. Voilà, vous voulez de la
polémique? Ah, Pedri, on a mis chercher Pedri, te faisais rien et tu me fais la leçon sur ça, là.
Vous êtes content, là, c'est bon.
Encore que c'est recalé, Pedri n'est pas une légende.
Enfin, c'est pas encore une légende, mais c'est quand même gros joueur. Et donc, footballistiquement, t'as aucun sentiment quand Pedri a le ballon. Par contre, tu me fais la leçon sur Gareth Bale et sur Mohamed Salah. Qui est au standard, là? Qui est au standard? Adrien, tu me l'enlèves. S'il te plaît. Rien, tout de suite. On passe à autre chose. Il y a un petit Péricard là qui va peut-être breaker. Allez, on passe à autre chose.
Non mais Aubin, qu'est-ce que tu reproches entre guillemets à Pedri? C'est-à-dire que Pedri, tu trouves pas qu'il est pétri de talent? C'est lequel?
Alors regarde, Pedri, je reproche. Alors je vais être très honnête. Hein. Je reproche déjà son physique. Il a un physique lambda. Physique. Il est vraiment lambda sur le terrain.
Alors c'est quoi l'argument là?
laisse finir.
Iniesta aussi là-bas.
Laisse finir.
Voilà, donc ce que je reproche, c'est que déjà physiquement, il est lambda. Ça veut dire quoi? Il est pas rapide, il ne saute pas forcément haut, il est pas, il a pas de marque, si tu veux, physique pas particulière. Ensuite,
tu regardes les tatelons ou tu regardes le football, toi,
Younis Barber?
Non, mais c'est quoi que tu cherches là? C'est Boubka que tu cherches? C'est quoi? C'est non, mais il y a Patrick Montel qui commande tes matchs ou tu regardes du football?
Alors je comprends. Enfin, je peux terminer?
Oui, on te coupe plus.
Ce que je veux dire par là, physiquement, c'est pas sur son physique en tant qu'individu. Je parle sur ses caractéristiques physiques. Il n'est pas forcément rapide. Il n'est pas forcément à l'épaule. Il n'est pas extraordinaire.
Oui, mais avec le ballon.
Laisse le parler, Walid.
Ouais. Donc, alors déjà, il n'a pas de caractéristiques physiques qui ressort. Donc il saute pas forcément haut, etc., etc. Et en plus de ça, il a un jeu qui est ultra conventionnel. Donc Pedri, moi je le mets un peu dans le futur. S'il prend pas plus de risques dans son football, il va risquer d'avoir cette carrière là que dans peut-être dans 8 ou 10 ans, si on est encore tous là, on va en reparler dans 10 ans, qu'il n'y a pas eu d'émotion, quoi.
Ah d'accord, tu vois, ok.
Parce que son record à 51 matchs d'affilée. On en a rien à cirer, en vrai.
Ah non, mais t'as pas une sensibilité, tu regardes pas un match de foot pour Pedri, toi?
Non, absolument pas.
D'accord, tu regardes le match de foot pour qui?
Bah, je donne un exemple, dans la même équipe, je prends plus de plaisir à voir jouer un Dani Olmo qui est bien moins bon que Pedri, que Pedri.
Ah vraiment. Oui, d'accord, ok. Bon, d'accord, bah,
ça se défend.
Ok. Après, Dani Olmo, tu dois pas beaucoup le voir jouer, quand même.
Ah, il joue beaucoup cette saison.
Oui, c'est vrai qu'il joue beaucoup cette saison, mais beaucoup de blessures depuis le début de sa carrière, quand même.
Moi je compte par rapport à cette saison.
Non, mais après Daniel Mo est un bon joueur, est un très bon joueur de foot. Hein.
Passe D et but, je crois que Tani passe D et but, il doit être tout aux compétitions confondues, d'être à plus de.
Mais on est dans la même catégorie entre Daniel Olmo et Pedri, c'est quand même la même école, quoi. J'ai l'impression que tu veux les opposer.
Daniel Olmo, c'est un gaucher qui est un peu racé comme ça, tu kiffes plus à le voir jouer que Pedri.
Ok, mais on a le droit, on peut kiffer les deux.
Oui, évidemment, mais s'il faut choisir.
Mais personne t'a demandé de choisir, c'est toi qui as parlé de Pedri, hein. C'est toi qui fais ton.
Oui, voilà, non, mais. Tu m'as posé la question en me disant qui est-ce qui te donne du plaisir, par exemple, pour pas aller très loin. J'ai pris dans la même équipe, okay. dans la même zone
mais
de jeu.
Mais tout est acceptable, Aubin. C'est le principe. Tout de toute façon, les sensibilités, elles sont propres à chacun. Et c'est pour ça qu'on voulait faire ce débat. Merci beaucoup, Aubin, d'avoir été avec nous. Belle soirée à toi. Dans quelques instants, je vais vous lire certains messages sur le WhatsApp RMC, parce qu'il y a énormément de propositions, évidemment. Puis nous aurons l'avis d'Elton Mokolo sur Rulli, le gardien marseillais, qui s'est exprimé sur son compte Instagram. A tout de suite dans Génération After.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Karine Galli. 21h33, vous êtes sur RMC. On est ensemble jusqu'à 22h avec Walid Acherchour, avec Jennifer Mandelevitch, avec Elton Mokolo à 22h. C'est le retour de Gilbert Bribois dans l'After Foot. On fait un débat qui est enflammé. Les joueurs, des grands joueurs, des légendes même parfois, qui nous procurent aucune émotion. Et sur le WhatsApp RMC, il y a énormément de noms qui sortent.
On insiste sur légende, hein.
Légende ou très grand joueur, parce que le terme légende est parfois galvaudé aussi. Exactement. Il y a Alexandre qui nous dit, je dirais Casemiro pour ma part, un jeu musclé et brut qui ne m'a jamais parlé.
Ça c'est bien, je voulais le proposer.
Joueur très utile pour un collectif, très important, etc.
Encore une fois, c'est dans la case employé du mois. Ça procure pas d'émotion.
Joueur très très important et très utile.
Effectivement, que tous les entraîneurs voulaient dans leur équipe, mais c'est effectivement, que tu ne rêvais pas quand tu voyais forcément jouer, tu te levais pas la nuit en pensant à lui. L'honnête qui nous dit perso zéro émotion avec Didier Deschamps comme joueur ou comme entraîneur, mais ça aussi c'est un joueur de l'ombre.
Mais globalement les joueurs défensifs, moi je pourrais en faire plein, hein,
mais là il y en a un bon, parce que c'est vrai qu'il a toujours été assez clivant, très aigué, très grand buteur, on sait que c'était vraiment un finisseur, mais jamais d'émotion sur le terrain.
Si nous a pas fait d'émotion en tant que Français, moi très aigué, je peux pas dire ça, c'est impossible. 2006 et 2000, c'est mes deux plus grandes émotions avec l'équipe de France.
Dans la globalité de sa carrière.
Oui, enfin après oui, c'était un buteur de surface, très très bon sur le première touche, deuxième touche. Je préférais d'autres attaquants. Hein, j'étais plus Thierry Henry que très aigué, ça c'est une réalité. Après en termes d'émotion, il m'a quand même touché.
Bah oui, bien sûr, il y a 2000, Rotterdam.
Il y a un joueur qui revient très souvent également. Yoann nous dit Varane, trop propre.
Mais globalement les joueurs défensifs.
Moi j'adore Sergio Ramos.
En fait Sergio Ramos c'est pas le côté défenseur qui te
c'est la personnalité,
en fait, la personnalité, l'aura, le charisme.
Et même c'est de l'ombre transversale
Moi Varane, j'aimais bien le style de joueur. Par exemple, il y a un joueur qui me faisait rien globalement, mais qui était un monstre, mais qui me faisait très très peur, hein. C'est-à-dire que pour moi tu le mets à côté de Scar dans le Roi Lion, c'est la même chose, hein, c'est Rio Ferdinand.
Moi j'ai fait
très très peur et tout, etc. Mais footballistiquement, je sais pas, mais j'étais pas comme un dingue sur Rio Ferdinand. Mais parce que sur les joueurs défensifs, je pense qu'on prend pas beaucoup de, on prend pas beaucoup de risques avec les joueurs défensifs de toute façon.
Oui, mais ça dépend, parce que par exemple, moi j'adorais Pepe, j'adorais Sergio Ramos, mais par exemple là dans la liste, donc il y a Varane, c'est vrai, moi trop propre, trop j'ai pas d'image, tu vois, de lui qui m'ont marqué.
Faut encore un autre critère, le secteur offensif.
Non, ça dépend. Johan qui nous dit par exemple Thiago Silva également. Il n'a pas eu d'émotion.
Ça a été dit.
Thiago Silva, c'est un super joueur. C'est incroyable ce qu'il procurait footballistiquement et tout. Moi, c'est l'un de mes défenseurs préférés all-time, moi, Thiago Silva.
On a Yaya Touré. Tu ne veux pas dire ça, Yaya Touré. Justement, c'est un milieu de terrain incroyable.
Footballistiquement, c'était incroyable.
Kaka également revient. Le mec est fou. Il y en a un qui a quand même osé dire Modric. C'est trop. Hein, ce genre de délire. Mais c'est vrai que par exemple dans les défenseurs Varane, il y en a beaucoup qui disent c'était un défenseur qui était toujours propre, etc. Mais il y a pas.
Il y a un joueur offensif qui me faisait rien du tout. C'était Van Nistelrooy.
Ah ouais.
Van Nistelrooy, je trouvais très très froid, très dans la surface de réparation, incroyable, buteur incroyable, exceptionnel, légende et tout. Mais moi, il me faisait pas, franchement, c'était les numéros 9 qui me faisaient pas grand chose.
Et on a aussi là, qui c'est qui revient ?
Alors, demain entre Van Persie et Van Nistelrooy, Van Nistelrooy était un joueur beaucoup plus régulier, beaucoup plus fort, qui a laissé une trace indélébile en première ligue, même si Van Persie a aussi une legacy importante. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour beaucoup, les mecs qui te disent entre Van Nistelrooy et Van Persie, Van Nistelrooy a eu un prime à Manchester United monstrueux. Moi, Van Persie, footballistiquement, dans tout ce qu'il avait, dans la dextérité de sa cheville, ce style de joueur, la beauté et la classe, me parlait beaucoup plus que, et pourtant, c'était deux Hollandais.
On a quelqu'un qui nous dit Mahrez. Ben non, Mahrez, c'est des émotions
oui,
aussi.
Oui, oui, oui.
Très surprenant et tout. Mais les gens s'engueulent par rapport à ce qu'on a dit. C'est quand même après ça, exceptionnel.
C'est les débats. C'est ces débats-là. C'est des débats horribles. C'est des débats horribles qui
s'engueulent sur quoi précisément?
Eh ben sur les joueurs qu'on a dit. Il y a eu beaucoup quand même sur Mohamed Salah. Ouais, et après, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui soient fans de Gareth Bale. Ça aussi, tu vois, c'est quand même une énigme. Parce que bon, je trouve que Gareth Bale,
ils ont le droit.
Non mais enfin t'as rencontré beaucoup de gens dans ta vie qui t'ont dit moi c'est Gareth Bale mon joueur.
Il y avait pas de Real Madrid quoi.
Et Première Ligue.
C'est ça.
Parce qu'il a choqué la Première Ligue.
Il a été quand même deux fois meilleur joueur de Première
Ligue. Oui, non mais vous connaissez beaucoup de gens fans de Gareth Bale.
Le premier joueur qui te vient à l'esprit normalement quand tu parles de joueurs qui te font quand même certains fans de Gareth Bale.
Il y en a beaucoup. Il y a Bertie également, supporter marseillais je crois, qui nous appelle au 32-16 sur RMC. Salut Bertie.
Bonjour messieurs dames. Vous allez bien?
Très bien, Bertie. Alors déjà, parce qu'on parlait des légendes ou des très très grands joueurs qui te procurent aucune émotion. C'est pas le débat, mais quand même, toi, ton joueur all-time sur l'Olympique de Marseille, c'est qui?
Waouh! Ah ouais, j'avais pas pensé. All-time. Non, Chris Waddle, c'est un gros joueur. Ouais, c'est plus Didier Deschamps à ce moment-là, si on veut parler du sujet.
Non mais là c'était pas forcément le sujet, hein. C'était ton joueur préféré, voilà.
Ah mon joueur préféré voilà. De Marseille.
Oui, c'était ça ma question là.
Ouais, Chris Waddle.
Ah très bon choix, magnifique Chris Waddle, évidemment les émotions.
Ouais. Et Chris par rapport, il nous a fait vibrer.
Bien sûr, non mais magnifique. Moi c'est mes deux joueurs préférés, hein. Chris Waddle et Dugarry, donc ça marche très bien. Et donc ouais, par rapport à ce qu'on. Oui.
Ouais, par rapport à ce que vous dites, excusez-moi Karina. Par contre il y a un joueur, moi bon, c'est pas un grand joueur. Mais il y a un joueur qui ne donnait pas de sensation du tout, mais c'est un charbonneur. C'est Jérémy Toulalon.
C'est refusé,
ça rentre pas dans le club sélect.
Jérémy Toulalon, c'est un joueur de l'ombre, qui devait travailler pour l'équipe, donc il rentre pas du tout dans la catégorie.
Toi-même, dans ce que t'as dit, t'avais pas beaucoup de conviction.
Personne ne peut te dire qu'il a eu des émotions et Jérémy Toulalon. Ça marche pas.
Bah ouais. Ouais, mais tu peux pas avoir. Non, mais justement, alors je me suis trompé de sujet, mais.
Ouais, Bertie, oui, tu es arrivé.
Tu savais que t'allais tirer ton pénalty au-dessus. Tu le savais. Et tu l'as fait.
Ah, oui. Ouais, je l'ai tiré au-dessus.
Ouais, le tribunal.
Bertie, on te parle de joueurs qui sont des joueurs frissons pour certains et qui pourtant, pour toi, ne te procurent pas d'émission. Jérémy Toulalon n'a procuré aucun frisson à personne. Et c'est parce qu'on lui demandait d'ailleurs, c'est pas grave.
Moi, un joueur, c'est Salah. Salah,
trop,
très gros potentiel, mais ça
ne me
donnait pas
de frisson.
Ah ben comme Walid.
Pas très gros potentiel.
Il a passé le step du potentiel, quoi. C'est légende absolue de Liverpool et de Première Ligue quand même.
Mais franchement, il m'a pas donné de sens. Ouais, c'est vrai. Ce joueur-là, quoi. Sinon après j'en ai pas beaucoup. Moi dans ma tête j'ai mis tout l'allant comme ça. Je suis juste de prendre votre truc là. Donc je me suis dit peut-être que ce joueur là ça va parler. Apparemment je tire au dessus donc.
C'est total parce que Jérémy Toulalon effectivement on lui demandait juste de faire son taf et il le faisait plutôt.
Ah t'es venu au bac sans réviser, tu t'es dit ça va passer quoi. Exactement. Il est parti au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes t'as laissé la feuille blanche quoi.
Tu t'es dit bon on va tenter un truc.
En tout cas t'as un fou rire très communicatif.
Exactement.
Merci.
Le fou rire, il est comme ça, le fou rire. Après, par contre, le débat, c'est catastrophique, mais le fou rire, il est comme ça.
Merci beaucoup, Bertie.
Bonne soirée à toi.
Bon, Walid, tout le monde me dit qu'il paraît qu'il y a un joueur qui te procure pas d'émotion. Je n'étais pas au courant, mais c'est sorti dans la rédac. Toi, il paraît que Griezmann aussi, c'est quelqu'un qui te laisse froid.
Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce qu'en fait, on a fait une émission dans le Winamax FC. Parce qu'on a un concept qui s'appelle les joueurs qui nous ont rien fait. Et c'est vrai que moi, Griezmann, en tout cas en club, si on sort du côté patriotique français, moi, en fait, le problème de Griezmann, c'est que tu parlais de frustration tout à l'heure. Mais moi, Griezmann, c'était un superbe joueur. Ça a toujours été un superbe joueur. C'est un monstre, hein, une légende avec l'équipe de France. Il est top 3. Je vais faire les CGU avant de le critiquer. Après la Real Sociedad, il va s'enfermer avec deux sélectionneurs avec qui j'ai pas d'atome crochu, en fait. C'est que pour moi, c'est le leader d'attaque de Simeone et de Didier Deschamps. Deux équipes qui ne m'ont rien fait. Et moi, j'ai.
Comment ça qu'ils t'ont rien fait, d'équipe de France?
Mais c'est pas le football qu'il aime.
C'est pas le football que j'aime, moi. Non, mais moi, j'ai toujours dit. Moi, j'ai préféré l'Euro 2000. J'ai préféré la Coupe du. Même, je suis un fou. Moi, j'ai préféré même l'Euro 2012. Moi, j'aimais bien cette équipe-là. J'aimais bien la génération 87. Mais c'est mon football. C'est mon lien.
Vous payez les caméras.
Non, mais attends,
c'est
génial. Moi, je l'adore.
Attends, je peux terminer sur Griezmann.
Mais t'as préféré l'Euro 2012.
J'étais plus attaché à ces joueurs-là. J'ai le droit, quand même. Mais d'accord, mais j'étais plus attaché. Je voulais plus le bonheur de cette équipe-là par rapport à ce que Deschamps me procurait footballistiquement. Et par rapport à ce qu'il faisait. Et Griezmann, monstre qu'il est, il n'y a aucun problème, c'est un monstre. Il y a plein de joueurs offensivement, non étrangers, français ou étrangers, pardon, qui me procuraient beaucoup plus de choses. Moi, je trouve que Griezmann, c'est un joueur de toqué très très beau, contrôle passe, etc. Mais ces joueurs-là, je préfère au poste de numéro 8 qu'au poste de numéro 10, qu'au poste de 9,5. Je préférais les joueurs qui pouvaient conduire la balle, les slaloms. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les slaloms type Eden Hazard, Messi, Neymar. Tous ces mecs-là me font sauter au rideau. Par contre, Griezmann, j'avais pas... Et parce qu'il est français, j'ai une attache, mais je me pose souvent la question, s'il est pas français, Antoine Griezmann, bon bah je suis pas comme un dingue, voilà, tout simplement. Maintenant ça veut pas dire que il est pas monstrueux, oui, et que ça a été un joueur gigantesque, hein.
Et là il y en a un génial parce que je l'adore.
Attends, juste pour terminer, oui, aussi, même dans sa communication, moi je trouve que il y avait un côté, j'étais au Barça, retrouver Simeone, faire des tacles à 70 mètres, tu vois, ce côté-là, moi, ça m'a écœuré. Moi, pour moi, t'es numéro 10, etc., ma conception du foot, après, elle m'appartient.
Oui.
Mais ma conception du foot, c'est que tu veux avoir le ballon 80%, 70%, avoir le plus d'attaques possible, aller à 80 mètres de son but, presser, jouer à la Lampard, etc. Moi, pour moi, c'est pas ma conception quand t'es 9,5. Après, voilà, moi, je suis pas en phase avec ce qu'il avait comme définition du football, tout simplement. Après, ça lui a permis de gagner des titres en équipe de France, oui, et en étant incroyable. Hein, mais...
bon, juste pour finir, parce que Marouane, je l'adore celui-là, parce que ça va faire débat. Moi, je suis fan de joueurs, mais il y en a plein qui l'aiment pas. Thomas Müller. Voilà, il dit, je dois avouer, ouais, il ne m'a pas fait grand-chose.
Très froid aussi, Thomas Müller.
Moi, j'adore.
C'est pas mal.
Ah, ouais.
Toi,
t'es la contre-programmation de. Après, Thomas Müller, super joueur.
Ah, bah oui,
exceptionnel, etc.
Très grand joueur.
Mais froid. Après, moi, de toute façon, je trouve que les Allemands dégagent. Les joueurs allemands dégagent pas une énorme...
Avec son maillot dans le short et tout.
Ouais.
Ah là là, magnifique. Ça, c'est très bon joueur, là, le Thomas Müller, pour terminer. Il y a Pascal qui nous dit Harry Kane. C'est vrai qu'Harry Kane, moi j'aime beaucoup.
Ah, moi, pour le coup, Harry Kane, j'aime énormément.
Moi, j'aime beaucoup aussi, mais il y en a qui sont pas forcément très émus.
Baby Benzema.
Harry Kane, voilà. Dans quelques instants, on continue évidemment avec l'avis d'Elton Mokolo. C'est terminé pour les légendes ou les grands joueurs qui nous procurent aucune émotion.
Elton est colère. Salah, juste pour terminer, je préférais Firmino à Salah. Footballistiquement, Salah est un meilleur joueur, bien meilleur joueur que Firmino, et
Firmino n'est pas une légende, oui, par rapport,
exactement,
à ça.
Mais dans le style de joueur, je préférais Firmino que Salah.
Très bien. Ben écoute, on peut évidemment, tous les avis sont audibles et défendables. Dans quelques instants, l'avis d'Elton Mokolo sur Rouli, le gardien de l'Olympique de Marseille. On est ensemble jusqu'à 22h dans Génération After. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Karine Galli. 21h47, vous êtes à l'écoute d'RMC avec Walid Acherchour, Jennifer Mendelevitch et Elton Mokolo. On va tout de suite parler de l'Olympique de Marseille et c'est l'avis tranché d'Elton Mokolo.
Et puis sincèrement, Nassim, cette mentalité failure before success, ok, wow, moi j'en suis revenu.
Rouli, le gardien de but marseillais qui sort d'une saison très compliquée, deuxième saison pour le gardien argentin, s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, Elton.
Oui, exactement. Il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux, notamment pour revenir sur ce qui a été une saison de galère, la saison 2025-2026, où justement, ce qui est déjà très intéressant, c'est dans la leçon de communication, il y a une volonté d'avoir une communication franche et directe, notamment avec ses abonnés, avec ceux qui globalement suivent l'Olympique de Marseille. Et à travers cette communication, on a quand même vu des choses qui m'ont semblé pour moi intéressantes et qui dénotent pour moi d'un manque d'autocritique et même d'une auto-satisfaction qui n'a pas forcément sa place. Quand on croise notamment ce discours de Geronimo Rulli, avec notamment le discours de celui qui est désormais son ex-directeur du football, Mehdi Benatia. Alors, ça commence bien évidemment avec le fait que, pour lui, il a la conscience tranquille par rapport à la saison qui vient de s'écouler. Une saison qui a été quand même difficile, même si il y avait eu du très bon Geronimo Rulli sur le début de saison, mais il y a rapidement eu des contre-performances, des buts où il était sur la photo de famille, son remplacement lors du classique, ou plutôt sa non-titularisation lors de ce fameux classique contre le PSG. Et enfin, il y a un point qui m'intéresse, notamment sur le fait qu'il y a eu énormément de bruit, et ces bruits qui ont contribué justement à séparer, ou plutôt à distancier et les supporters et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Alors, quand il parle de bruit, est-ce qu'il parle notamment de la presse qui a, pour lui, ou qui a plus ou moins contribué à ça? Est-ce qu'il parle de la direction qui a pas forcément aidé? Et enfin, il te parle notamment de cette qualification pour la Ligue Europa qui est pour lui un objectif, à savoir retrouver une compétition européenne. Quand on croise encore une fois sa déclaration avec celle de Mehdi Benatia, qui juge cette saison comme catastrophique et comme un gâchis, on n'est pas forcément obligé d'écouter Geronimo Rulli. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur cette forme de déclaration qui, pour moi, traduit notamment l'un des symptômes du côté de l'Olympique de Marseille cette saison, à savoir que notamment dans cette notion d'autocritique, notamment dans cette idée de faire un retour sur soi-même, on n'a pas été forcément capable de le faire. Et dans la perspective de la saison prochaine, qui sera la saison du rachat, il faudra s'appuyer sur des joueurs qui soient davantage lucides, sûrs et en dehors du terrain.
Mais tu crois qu'il va le faire? Enfin, je sais pas, c'est ses propres réseaux sociaux, c'est sa propre communication, il va pas se flageller non plus en disant on a fait une saison horrible, moi aussi en deuxième partie de saison j'ai pas été bon, désolé, pardon, c'est pas l'endroit en fait. Il y a aucun joueur qui va faire ça et qui va se tirer une balle dans le pied tout seul pour se prendre des commentaires des supporters de l'Olympique de Marseille. C'est pas le moment. Il fait juste un poste de fin de saison comme les trois quarts des joueurs font pour pouvoir partir en vacances. Et puis, en gros, merci, au revoir. On va commencer sur une nouvelle page la saison prochaine. Mais
pour ça, est-ce qu'on a besoin de cette com'là?
Mais pas du tout, en fait. Ça sert à rien.
Il arrive, en fait, qu'il fasse comme Elton l'a dit ou pas. Là où t'as raison, c'est que on se rappelle de Benjamin Pavard qui avait pris la parole pour s'auto-flageller. Il s'était fait désinguer. Là, s'il arrive et qu'il dit excusez-moi, j'ai fait une saison horrible, etc. Moi, je pense qu'au fait, il ne faut pas communiquer, quoi.
Tout le monde a pu la voir, la saison qu'ils ont faite. Ouais.
Il y a un point qui est très intéressant, parce que là, à travers, il a quand même expliqué qu'il avait la volonté de prendre du recul avant de livrer sa version des faits. Donc, à partir du moment où tu as cette volonté de prendre du recul et que derrière, tu veux avancer ton explication de la saison 2025-2026, il faut le faire avec des choses qui sont factuelles. Et expliquer que l'objectif, c'était d'atteindre la Ligue Europa, factuellement, c'est faux. C'est une contre-performance. La Ligue Europa n'est pas un lot de consolation, ça, je l'entends. Mais quand tu l'expliques, en fait, moi, j'ai envie que tu évoques une vérité. Et quand tu parles notamment de distraction extérieure, c'est pas forcément vrai.
Non, mais déjà, moi, je suis très étonné, Elton, que tu prennes autant d'importance à une communication de Geronimo Rulli. Qu'est-ce qu'on en a ciré?
C'est
quand même l'un des joueurs majeurs de la saison qui a failli.
Première saison,
elle est très bonne. Cette saison,
la communication de Geronimo Rulli ce soir et d'en avoir une importance pour la saison prochaine ou pour ce qui s'est passé cette saison, je vois pas en fait ce qu'on peut tirer. Je vois pas en fait l'intérêt de discuter de ça là à ce moment.
De toute façon, à l'Olympique de Marseille, mais il y a eu une erreur sur toute la saison, c'est que tout le monde a beaucoup trop parlé, en fait. Ça suffit, c'était un one-man show permanent à la fin de chaque match. On avait droit à un épisode du one-man. On avait des interviews à rallonge tous les deux mois. Là, en fait, Geronimo Rulli, il fait comme le reste de l'Olympique de Marseille. Et à un moment, il faut arrêter de parler et faites sur le terrain ce que les gens attendent.
Aujourd'hui, il y a un moment donné, il y a une hiérarchisation pour moi de la communication. C'est-à-dire que, en fonction de qui communique, ça a une importance, que ce soit Benatia il y a une semaine, ou un Geronimo Rulli qui est pour moi l'une des voix autorisées du côté de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, dans cette manière de décrypter la communication, c'est quand même
quelque chose. On a bien compris qu'il y avait un déni total du côté de l'Olympique de Marseille. Les joueurs, de toute façon, dans son message, on a bien compris. Il explique qu'il y a des gens qui ont raconté des histoires pendant toute l'année, tout, etc. Donc et de toute façon, on a bien compris aussi que sur la fin de saison, les joueurs voulaient faire payer à Mehdi Benatia ou l'ancienne direction ou à Habib Bey une communication ou une surcommunication
communication franche, directe. En tout cas, il y avait une vraie fracture entre ces deux parties-là. Que Mehdi Benatia, on l'a vu aussi dans sa déclaration de fin de saison. Voilà, globalement, on a bien compris que des deux côtés, il y avait un truc qui s'était mal passé cette saison, que on se refilait un petit peu la patate chaude. La direction, les joueurs ont failli. Les joueurs, ils vont te dire que c'est la direction qui a failli. Le coach va te dire que c'est le coach précédent. Le coach précédent, il va te dire que c'est les joueurs. Voilà. Donc, de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue aujourd'hui à Marseille. Moi, sincèrement, la communication de Marseillaise aujourd'hui, c'est plus le terrain, ce qui s'est passé. Enfin, j'ai décrypté la communication qui était pas bonne cette saison. C'est pas la fin de la saison, un poste de Jérôme Rouli. En fait, c'est la suite logique de tout ce qui s'est passé sur la fin. Et ça nous montre que oui, ils étaient sur la lune, joueurs compris. Et quand Rouli te dit que l'objectif c'était la Coupe d'Europe, oui, c'est bien de le dire comme ça sur un. Maintenant, de là, je vois pas. On n'apprend rien. En fait, on n'apprend rien avec ce poste-là.
C'est un épisode de plus de cette forme de déni pour moi.
Oui, c'est une confirmation. Maintenant, on n'a pas attendu ça de la part de Geronimo Rulli ou des joueurs. De toute façon, s'il y avait une prise de conscience de la part des joueurs, on l'aurait vu sur la fin de saison. Hein. Quand tu vois que Lille a fait 0-2 contre Auxerre et que de l'autre côté,
ils te diront, il y a eu quand même ce match contre Rennes qui te permet de te qualifier pour cette Ligue Europa.
Et il termine son poste là-dessus. Messieurs, j'ai encore quelques infos à vous donner. On rappelle juste qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2027. Donc, c'est soit départ cet été, soit il est libre. En tout cas, lui, il donne rendez-vous, soi-disant, aux Marseillais. J'espère que l'année prochaine sera différente. Donc, à voir s'il reste ou pas. Alors qu'effectivement, il a failli cette saison. 29 matchs de Ligue 1, 34 buts encaissés. C'est énorme pour Rouli cette saison. Un mot également, il y a Arbeloa qui a dit: je me vanterai toujours d'avoir entraîné un joueur aussi extraordinaire, en parlant de Kylian Mbappé.
Ça, d'ailleurs, tu la décryptes comment, cette communication sur les réseaux
d'Arbeloa? J'ai pas entendu
Arbeloa par rapport à Mbappé.
Arbeloa a déclaré sur les réseaux sociaux: je me vanterai toujours d'avoir entraîné un joueur aussi extraordinaire. C'est un mot qu'il a laissé sur un poste.
Oui, j'ai vu aussi la célébration d'Mbappé après celle de Bellingham, où il va voir Arbeloa aussi. Bon, on est sur le bal des hypocrites, quoi. Moi, je comprends plus rien. Une semaine avant, on a Kylian Mbappé qui désingue tout le monde et qui montre que, en fait, il y a des grosses inimitiés, des grosses fractures. Une semaine après, alors qu'Arbeloa va partir, tout le monde se check dans la main. C'est comme Greenwood et Habib Bey. C'est tout ça là, c'est comme à l'époque Griezmann et Mbappé après les Pays-Bas. Au bout de la première minute, on sait qu'il y avait des problèmes, une fracture entre les deux par rapport au capitana. Et après premier but, c'est les meilleurs amis du monde. Voilà, tout ça, moi, ça commence un peu à me saouler. C'est de la politique. On veut éteindre les feux, des feux que certains ont allumés
eux-mêmes.
Voilà,
Une information, le Deportivo La Corogne est de retour en Liga 8 ans après sa relégation.
Ça, c'est énorme.
Donc sacré perf, ils étaient tombés jusqu'en 4e division après avoir disparu de l'élite en 2018. Donc bravo à la Corogne qui revient dans cette première division espagnole. Un petit mot aussi rapidement, parce que Maxence Lacroix devrait quitter Crystal Palace. Est-ce qu'il doit trouver son club avant la Coupe du Monde ou attendre qu'il ait potentiellement un peu de temps de jeu à la Coupe du Monde et voir derrière?
Attendre, c'est logique. Il va avoir des sollicitations. Il n'y a pas lieu de se précipiter pour signer dans son nouveau club. Il a déjà l'accord de Crystal Palace pour partir. Je pense que en plus c'est un joueur qui veut un projet Ligue des Champions. Donc il n'y a vraiment pas lieu de signer immédiatement. Si à la Coupe du Monde ça se passe bien pour les Bleus, je pense que honnêtement il n'a pas de souci à se faire.
On va faire juste un petit mot avant de se quitter avec Eric Salio. On est dans le deuxième set pour Djoko et notre Giovanni. Djoko qui vient de perdre une balle importante. Il avait une balle de 5-3.
Oui, et c'est pas la première. Hein. Il est beaucoup plus menaçant dans cette deuxième manche. Mais pour l'instant, ça tient donc du côté de Giovanni Pecci-Péricard. Je rappelle qu'il a pris la première manche 7 jeux à 5. 4-3 pour le Serbe dans cette deuxième manche, et le Français donc qui va tenter de sauver sa mise en jeu. Mais c'est vrai que depuis une dizaine de minutes, c'est beaucoup plus compliqué. Il sert un petit peu moins bien, donc il s'expose, mais il est courageux. Elle est faute. Ouais. Nouvelle balle de break à venir pour Novak Djokovic, une nouvelle balle de 5-3.
Est-ce qu'on va la vivre avec toi? Est-ce qu'on a le temps, Kylian, ou pas, de la vivre? Oui, on reste avec toi, Eric, pour potentiellement donc cette balle de 5-3 convertie par Djoko ou pas à suivre. On est avec
potentiellement
toi.
Ça peut aller vite, hein, parce que Giovanni il peut te lâcher une première balle à 230 et le point il est fini. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est moins régulier au niveau du service pour le Lyonnais. parce qu'évidemment, il suffit que je dise ça pour qu'il passe une première. Nouvelle balle de break effacée, Karine. Donc, on est toujours à 40 à dans ce huitième jeu.
Bon, ben, on saura la fin de cette rencontre avec Gilbert Bruois. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci Walid, merci Elton, merci Jennifer. Merci à Kylian qui était aux manettes de l'émission dans quelques instants. L'After Foot avec Gilbert Bruois. Vous êtes à l'écoute d'RMC. Belle soirée à tous.
Génération After.